Bienvenue sur Lumpen Station. On a commencé une série de discussions avec Julien Berbera, muséologue, sur les questions de musée, de monstration, de collection. On a fait un premier épisode qui a ouvert un peu plusieurs perspectives. On a parlé de National Museum, de British Museum, de questions de restitution. On a essayé de voir aussi comment des collections peuvent être faites ou ont été faites et quelles questions peuvent surgir de cette histoire. Pour le deuxième épisode, on va se recentrer sur des questions liées à la pratique de l'art contemporain, voir aussi quelque part le rôle que jouent les musées ou les Kunsthallen, les directeurs, les artistes eux-mêmes, en espérant de partager avec les personnes qui nous écoutent des questions qui peuvent être utiles si vous êtes un artiste ou même si vous êtes un public amateur, justement, voir un peu en côté, j'ai envie de dire, back office lié à des questions de muséologie. Bonjour Julien.
Salut Andrea.
Merci d'être là sur Lumpen Station pour partager aussi tes recherches, ton savoir, tes questionnements et de aussi partager avec les personnes qui nous écoutent un peu des choses liées à ce qui nous entoure et que peut-être ne sont pas toujours au centre du débat. On va dire, on se focalise souvent sur la proposition artistique, l'artiste, et peut-être moins sur les conditions dans lesquelles une œuvre est montrée ou tout simplement l'institution qui les présente. Je voulais peut-être commencer avec toi par une question simple qui serait le musée d'art par rapport à d'autres types de musées. On a vu qu'ils sont peut-être dans la présentation de collections. On évoquait dans le premier épisode le musée d'histoire naturelle avec des collections de papillons ou d'espèces. Et puis on va essayer d'être le plus exhaustif possible. Le musée d'art, quelque part, il me semble, c'est un peu construit de la même façon, en ayant l'objectif d'aller chercher des peintures de la Renaissance ou religieuses ou de l'ordre du sacré. Et puis, peut-être, au bout du XXe siècle, peut-être tu diras plus précisément, mais peut-être à partir des avant-gardes ou après-guerre, ça devient aussi, il me semble, un lieu d'expérimentation, un lieu qui accueille des pratiques de plus en plus contemporaines. Avant, c'était plutôt quelque chose qui était dirigé vers le passé, et voire plusieurs décennies ou siècles derrière nous. Et là, le musée d'art contemporain, quelque part, change aussi son agenda en tant que musée pour essayer de rattraper le présent.
Merci, je vais essayer de répondre, de prendre un peu tous les éléments dont tu parles dans ma réponse. je pense que peut-être c'est important de dire ou de constater que le musée, en tout cas dans sa définition simple, disons la manière la manière dont il se présente durant le XXe siècle, pour une grande partie, il y a un rapport d'acceptation, de rejet assez fort avec les artistes dans les années 20, 30. pas forcément un but des artistes de cette époque-là d'entrer au musée, parce que c'est pas forcément, ça dépend des artistes effectivement, mais c'est pas le musée revêt pas l'enjeu de validation de carrière ou de validation artistique qu'il peut peut-être maintenant revêtir quand on a la chance ou l'opportunité comme artiste d'exposer dans une institution prestigieuse. Après, je pense que ces questions, elles continuent d'exister actuellement. Hein. C'est vraiment, il y a des artistes qu'on pourrait catégoriser des artistes de galerie, des gens qui vivent très bien de leur travail artistique, qui ont des galeries, qui savent vendre leur travail et qui sont peut-être un peu en dessous des radars des institutions ou disons des musées plus institutionnels. Et puis il y a des artistes qui ont pour le coup une véritable presse, ou disons une véritable existence dans des musées institutionnels, qui ont une validation assez grande de la part des historiens, historiennes de l'art, critiques d'art, commissaires d'exposition, etc., et qui ont des pratiques qui s'insèrent un peu moins dans le marché de l'art. Et puis évidemment, entre ces deux positions, il y a quantité d'autres positions. Maintenant, d'un point de vue plus historique, effectivement, on entend souvent parler, peut-être les gens qui s'intéressent un peu à l'art, c'est toujours ce modèle du White Cube qui est en fait une sorte de totem de l'art et de totem de la muséologie, et qui est en fait un truc assez étonnant, parce que c'est une, dans sa forme, le White Cube, c'est vraiment une émanation de la modernité en peinture. C'est à partir du moment où on décide que sur un tableau, tout élément, toute trace, toute marque inscrite à la surface du tableau est signifiant pour la compréhension de l'œuvre. À partir du moment où en fait, on commence de construire, évidemment, on peut parler de Kazimir Malevitch et de son carré noir sur fond blanc, carré blanc sur fond blanc, des expérimentations picturales qui font qu'à partir du moment où il y a un moment où on ne considère plus la peinture uniquement comme un lieu de représentation, mais aussi il n'y a pas juste la manière de peindre qu'est-ce qui est peint qui fait sens, mais aussi la manière dont la marque inscrite sur la toile fait du sens. Directement lié à ça, on va projeter cette manière de penser l'art dans l'espace d'exposition. Et c'est ça qui donne concrètement le White Cube. Pendant longtemps, on n'était pas dérangé du fait qu'il y ait des moulures au plafond, des radiateurs dans les coins, différentes choses qui viennent en fait parasiter. Disons, donc maintenant, on dirait qu'ils parasitent le regard, mais pendant longtemps, c'était pas un point, c'était pas très important. Et en fait, progressivement, dans la suite de cette vision moderne de la peinture, on va faire que les espaces d'exposition puissent être des sortes d'écrins absolus. Qui sont détachés de toute existence externe, qui soit c'est une sorte de stratégie de neutralisation.
Mais du coup, ça, c'est lié un peu à ce qu'on évoquait dans le premier épisode du musée, la Maison des Muses, quelque part pour extraire de la vie quotidienne une expression artistique pour le relié à une sorte de sacré, j'ai envie de dire, une sorte de sacré laïque.
Oui, je pense que la lecture sacrée, elle est hyper importante dans l'espace d'art. D'ailleurs, comme boutade, on peut observer ce truc où au musée comme à l'église, on parle pas fort dans les salles, quoi. Il y a un truc comme ça assez drôle. Mais effectivement, donc je pense que la notion de sacré, d'ailleurs, elle est toujours assez importante, même si on essaye maintenant, depuis longtemps, on essaie de la casser, mais je crois qu'elle est tellement intrinsèque que c'est vraiment quelque chose qui est assez compliqué. Mais je pense aussi qu'à la fois, donc le White Cube, c'est une manière de sacraliser, une manière d'extraire de la vie quotidienne les œuvres et de les mettre dans un contexte qui permet de les regarder sans être dérangé par d'autres éléments, dans une sorte de simplification extrême. Et donc ça, c'est, je pense, un des premiers éléments. Mais un élément qui est aussi important et qui rejoint aussi cette question du tableau moderniste ou disons de l'œuvre, c'est qu'en fait, on a un jeu de fenêtres avec l'espace d'exposition. C'est que pendant longtemps, le cadre fonctionne comme un marqueur, une délimitation de ce qui fait œuvre, de ce qu'on doit regarder. Donc tu peux... comme lors des salons parisiens, exposer toute une série de tableaux côte à côte. Peu importe, ils ont des cadres autour qui permettent de les dissocier les uns des autres. Et puis, effectivement, les pratiques artistiques qui évoluent, où on va forcément dépasser le cadre, le truc le plus emblématique, ou disons le plus... qui représente une des choses qui est le... Qui va dans ce sens de manière la plus forte, c'est le travail de Jackson Pollock, où tout à coup la toile est complètement... on dépasse du caractère de la toile comme... C'est plus la seule surface, on essaye de dépasser de ça. Et je pense qu'à la suite de ça, on peut parler de la performance, notamment du travail d'artistes comme Alan Kaprow, par exemple, qui lui va vraiment, c'est d'ailleurs assez clairement comme ça que lui le formule quand il produit des textes ou qu'il est interrogé sur ça. Il y a chez Alan Kaprow une véritable volonté de dépasser l'espace restreint de la toile et du coup de dépasser l'espace restreint du musée, en fait. Donc ça donne lieu à toute une série de performances qui vont complètement... essayer d'exploser ou disons de sortir les murs de la galerie. Il y a cette intervention assez emblématique de Alan Kaprow. Il va mettre des pneus au sol. C'est, je crois, dans... C'est une exposition de... Je réfléchis à la... Ah oui, c'est Martha Jackson, la galerie dans laquelle il fait ça en 61. Et puis, justement, c'est intéressant de voir qu'il y a cette volonté, en fait, d'étirer toujours plus l'espace de la galerie. Et en fait, des fois, on a tendance à oublier, je crois aussi, parce que le White Cube a tellement fait école qu'on a tendance à oublier que ces artistes, à ce moment-là, sont plutôt dans une opposition par rapport à cette manière-là. Parce que le White Cube, fondamentalement, c'est aussi... une émanation de la galerie marchande, parce qu'évidemment, en fait, quand on parle on parle pas du musée, on parle vraiment de galerie commerciale, ou alors d'espaces d'exposition qui sont plutôt liés à l'atelier. Donc en fait, mais les artistes sont plutôt en opposition avec ça, sont plutôt à vouloir interroger ça. Et également Brian O'Doherty, qui est la personne qui a théorisé cette question du White Cube. Des fois, on a un peu tendance à occulter le fait que il amène une véritable pensée critique sur cette manière de faire, qui est en fait un espace inspiré du design aussi et du monde commercial, qui est en fait une manière de faire un magasin.
Ouais, justement, moi j'ai l'impression qu'on pourrait aussi se poser la question si le White Cube n'est pas une forme de standardisation qui permet justement de quelque part retrouver les mêmes conditions de démonstration / de vente au niveau global, donc une sorte de première forme de McDonaldisation intuitive. Mais j'étais curieux de te demander si... on peut savoir plus ou moins à quel moment cette standardisation se fait, si c'est entre les deux guerres, si c'est après, parce que là, tu citais Alan Kaprow déjà dans les années, début des années 60, donc s'il a une réaction au White Cube, ça veut dire que c'est déjà établi avant, et voilà, s'il y a peut-être dans le livre... dont tu parlais, si on pourrait donner aux gens qui nous écoutent et qui s'intéressent à ça, plus ou moins une date ou une période où le White Cube devient ou est considéré la meilleure manière pour partager une expression artistique. Comme tu as dit, est déjà lié à la galerie. Je me demande aussi si ce n'est pas lié aussi à certains musées d'histoire naturelle ou autre type de collection qui, quelque part, neutralisait le contexte dans lequel les choses ont été faites. Voilà, on parlait dans le premier épisode aussi de questions coloniales et qui sont justement montrées dans des musées comme le British Museum, le Louvre, où voilà, les choses sont décontextualisées. Et là, ça rentre aussi dans une pratique d'art contemporain qui sort de l'artisanal, qui sort du craft, comme on dit en bon français. Voilà, je te laisse. Je vois que tu regardes sur le livre. Peut-être le livre donne une indication précise, historique, ou même si on peut rester large et donner une fourchette.
Oui, je crois que, si tu veux, quand on réfléchit à ces questions-là, effectivement, on pourrait discuter du moment de bascule. Je crois que c'est ce que tu essayes de demander un peu, à partir de quel moment on peut dire « Ah, voilà, on est face à le premier White Cube. » C'est un peu...
Pas forcément le premier White Cube en soi, mais plutôt à quel moment on se rend compte que on montre des œuvres dans un type White Cube, donc avec tous les murs peints en blanc, à New York, comme à Londres, comme à Paris, comme à Venise, etc. Donc, c'est pour ça que je parlais plutôt de fourchette de temps.
Bon, je pense que... par rapport, pour répondre à cette question de manière peut-être un peu, de manière un peu générale, pour Brian O'Doherty, ce qui est intéressant, c'est que il publie donc ce sort de ces essais, hein, parce que c'est des essais dans un magazine d'art contemporain, je pense que c'est dans Art Forum qu'il publie ça, et il publie ça entre 76 et 81, donc en fait dans une période assez restreinte. Et en fait, lui, ce que je trouve assez intéressant, c'est que à ce moment-là, en fait, lui parle l'espace de la galerie et son idéologie. C'est comme ça que c'est traduit en français le titre, et je crois que c'est assez important de dire que c'est en fait à partir du moment où la galerie d'art, la galerie marchande, ce mécanisme de mise en évidence des œuvres d'art à travers le système commercial a véritablement fait école, en fait, se retrouve comme une sorte de dispositif par défaut. Et lui, il fait à cette période-là, fin des années 70, début des années 80, il fait le constat. Donc, c'est, effectivement, ça met... Mais après, les premiers... Lui, on parle de quelque chose qui émerge dans les années 50 plutôt, avec plusieurs expositions. On peut le faire remonter ça avant, et aussi comme ce dont je parlais tout à l'heure par rapport à la question du tableau moderniste, c'est que en fait c'est que il n'y a pas un moment de bascule, mais il y a toute une série il y a une idéologie commerciale qui se développe particulièrement fortement à partir des années 50 en Angleterre, aux États-Unis, et qui fait que justement on épouse aussi ces codes-là dans le monde de l'art. Et je crois que ça, c'est quand même quelque chose qui est important de garder en tête, hein, c'est que la manière de présenter l'art maintenant dans le musée est directement influencée. D'ailleurs, il y a plus ou il n'y a pas de démarcation très claire entre les galeries marchandes et les Kunsthalle dans la manière de montrer le travail. Après, la qualité des expositions peut être discutée, le focus et tout ça, mais au niveau formel, au niveau du dispositif muséographique, il y a une continuité.
Oui, je pense que c'est au niveau de l'architecture et quelque part, c'est des choses qui sont de basse intensité ou peut-être pas évident, mais si je pense aussi aux off-space, non, ce qu'on appelle des espaces qui sont souvent sans vrai fond ou à peine de quoi réussir à payer un peu les dépenses. Il y a même au sein de ce milieu, de cette pratique, la question du white cube et des débats que quelque part enlèvent de la légitimité aux artistes, aux travailleurs artistiques, si un off-space ne offre pas des conditions d'off-space, de white cube. Et bon, ici, on est au-dessus de espace libre que je connais très bien, mais c'était qui a des murs impossibles à cubiser ou à whiteiser. Et certains artistes trouvent ça problématique. Voire ne veulent pas exposer là-dedans parce qu'ils vont faire une documentation et ils ont peur d'être confrontés justement au fait de ne pas être reconnus dans leur travail et du coup c'est inutile à mettre dans leur portfolio. Et j'étais curieux, voilà, comment ça se fait que le musée, quelque part aussi au niveau architectural, embrasse cette standardisation issue des galeries et disons, pourquoi pas que les galeries fassent comme ça, mais ça influence aussi la lecture de jusqu'à ce qui est art et ce qui n'en est pas.
Oui, bon, après, je pense aussi que ce qu'il faut pas négliger, c'est que ce qui est en fait une manière, la manière dont on envisage le travail artistique et dont on envisage n'importe quelle exposition maintenant quand on la visite, mais c'est aussi de cette manière-là que les curateurs construisent leur travail, de cette manière dont ils discutent de ça avec les artistes, c'est qu'il y a toujours une dialectique qui est construite entre les objets qui sont présentés dans l'espace. Et en fait, ce qui était pendant longtemps pas le cas, quand tu as un tableau qui était délimité spatialement par un cadre, tu peux facilement dire ce qu'il y a à regarder se passe dans ce cadre. Et on est évidemment, on a complètement dépassé ça et on n'est plus. Et je crois que pour le coup, c'est plutôt heureux dans beaucoup de situations. Et en fait, le white cube, c'est pas quelque chose non plus qu'il faut diaboliser, qu'il faut uniquement connecter à l'espace de la galerie. Je pense que c'est l'espace de la galerie en tant que tel qui a donné lieu qui a développé ces formes dans cette manière-là. Mais on a aussi, si ça perdure cette manière de faire, c'est pas uniquement parce que le monde de l'art est néolibéral, probablement que ça joue un rôle. Mais ce qui joue aussi un rôle, c'est que il y a une importance. Il y a l'importance du fait que tout est signifiant et qu'un parcours d'exposition, et là on retourne peut-être sur des considérations plus muséographiques, c'est qu'en fait un parcours d'exposition ne se pense pas comme rarement comme une série de postes où chaque fois on a quelque chose à voir et après on peut éteindre notre attention jusqu'au poste suivant. Et c'est vraiment l'espace qui est euh, euh, qui, qui se situe, qui est entre les, qui est entre les différents, entre les différentes œuvres présentées, est particulier, et pour ça a acquis, disons, une nouvelle importance. Donc en fait, toutes les choses fonctionnent ensemble, sont signifiantes ensemble, et pour ces raisons, ben on est contraint de considérer l'ensemble de l'espace dans lequel est, dans lequel est, les choses sont exposées.
Ce que moi m'évoque ça évidemment qui a un côté ultra pratique dans le fait d'avoir un lieu neutre et de type white cube, et puis je pense qu'il y a aussi pas mal d'artistes qui jouent avec ça ou qui des fois peignent les murs ou on va dire recloisonnent le lieu. C'est juste que il y a quand même cette question de savoir quelle est la meilleure condition pour recevoir de l'art. Et je pense par exemple au street art, tu vois. À un moment donné, le street art, déjà le terme est discutable, mais il y a ce côté graffiti, il y a cette envie d'emmener une pratique picturale, expressive, du métro de New York à, au mur. Le graffiti, évidemment, est aussi vieux que les grottes de Lascaux, et voire plus. Mais après, il y a justement cette bascule entre le street art et on le met dans un musée ou slash en white cube. Et ça devient aussi autre chose. Quelque part, on pourrait se dire, bon, on fait un musée de street art, on trouve une manière de construire une cloison ou prendre un vieux bâtiment et puis on peint dessus sur les murs. Quelque part, ça serait plus proche de la pratique urbaine que de je sais pas, décrocher en bout de mur en Banksy et le mettre dans un white cube.
Oui, alors, bon... Oui, je crois que il y a bon, dans le cas du street art, comme dans le cas de d'autres pratiques qu'on pourrait qualifier de underground ou disons de pratiques qui sont en tout cas dans un premier temps qui font pas l'objet dans un premier temps d'une validation sociale ou qui sont des pratiques de niche, il y a toujours, je crois, une tension entre... Est-ce que peut-être ça rejoint aussi les discussions avant sur le fait de l'épisode précédent sur la question de la légitimité à montrer des objets exotiques, etc., ou considérés comme exotiques, cette exotisation d'objets inconnus, etc. Et je crois qu'il y a aussi des mécanismes qui sont proches dans le street art. C'est quand même cette volonté aussi de mettre au musée des pratiques underground pour des raisons, soit peut-être des raisons de fascination, mais aussi des raisons spéculatives, le fait d'en faire des biens de consommation, parce que c'est aussi ça, de faire entrer au musée les choses, c'est en faire des biens de consommation d'une certaine manière. Donc et là, on retourne sur la question du sacré. Il y a quand même le musée joue son rôle aussi de validation. Hein, il y a un principe de validation. À partir du moment où tu passes dans le musée, ton travail ou le travail qui a été montré acquiert un nouveau statut. Donc, je crois que le street art, typiquement, a suivi cette même courbe. Et en plus, je pense que ça, je suis pas forcément la personne la mieux placée pour parler de ça. Je connais pas assez bien, mais je crois qu'il y a, pas un street art, quoi. Il y a plusieurs pratiques qui sont différentes, qui répondent à des codes différents en fonction des époques et des lieux dans lesquels elles s'inscrivent. Donc en fait, c'est aussi peut-être pour parler de ça, ça vaudrait aussi la peine d'aller dans la finesse. Tu parles de Banksy, mais c'est aussi Banksy, c'est aussi quelque chose qui est un travail qui a certaines caractéristiques assez particulières, qui sont la question de l'anonymat, qui est pas juste un anonymat pour se préserver d'actions illégales, c'est aussi c'est presque une posture d'artiste, cet anonymat chez Banksy, et du coup ça participe de la mythification du travail de cet artiste.
Ce que tu disais, ça m'évoquait un autre point par rapport au sacré et au musée, qui est presque légal de l'ordre de la normativité ou des lois par rapport à l'Église. Maintenant, je ne suis pas un expert médiéviste, mais je sais qu'il y avait une sorte de... Quand on rentrait dans l'Église, il y avait une sorte de... C'était comme des ambassades, si tu veux. Donc certains allaient se réfugier dans l'église parce que en gros ils se faisaient pas entre guillemets massacrer directement s'ils avaient commis un grand délit, et du coup je trouve aussi intéressant avec des trucs comme le street art ou même d'autres formes de transgression sociale que quelque part quand ça rentre dans le musée, je pense aussi tout simplement aussi à des questions de communauté LGBTQ+, tu vois, une fois qu'elles ont une visibilité dans le musée, quelque part, ce statut sacré ou de église, il y a une sorte de différente jurisprudence, j'ai envie de dire, et qui permet aussi d'élargir, donc quelque part, le white cube, à la fois neutre en tant que tel, élargit l'espace du possible de ce qui est accepté dans la société, ou en tout cas le mettre éventuellement à débat.
Ouais, c'est intéressant ce parallèle que tu fais. Je ne sais pas, parce que je suis un peu d'accord avec toi, et en même temps... je pense que c'est pas aussi simple que je pense que si en fait on regarde de manière un peu fine le monde de l'art, l'écosystème de l'art, il y a pas quelque chose d'aussi on off que entrer dans le musée ou pas entrer dans le musée. Je crois qu'il y a toute une série de stratifications, peut-être plutôt, disons, moi je vois ça plutôt comme ça, il y a comme des filtres en fait qui permettent, et d'ailleurs c'est aussi ça que suivent c'est aussi la trajectoire que suivent les artistes en fait dans leur carrière, c'est que tu commences une fois que tu on va dire le parcours classique ou type d'un artiste contemporain aujourd'hui, c'est de à la sortie de ses études, disons, pendant ses études, il développe une pratique, il se connecte avec des mentors, des artistes qui plus confirmés, etc., qui vont jouer un peu des rôles de gatekeeper aussi. Grâce à ces mentors et également grâce au réseau qu'il sera capable ou qu'elle sera capable de construire à l'école, il ou elle aura accès à des espaces... ce qu'on appelle des off-space, donc à des espaces gérés par des artistes ou par des curateurs indépendants. Et en fait, en montrant son travail dans des off-space, on se fait connaître, on commence de marcher un peu mieux, on va obtenir des bourses qui vont aussi fonctionner comme dans un rôle de validation du travail. Et puis, évidemment, ça passe on passe des off-space au Kunsthalle et des Kunsthalle au musée. Parce qu'en fait, je crois que ce qui est aussi intéressant, c'est qu'à partir du moment où on est au musée, il y a une dimension patrimoniale. J'ai l'impression qu'avant ça, disons, c'est quelque chose qu'on peut discuter, mais la manière dont notamment en Suisse, le soutien aux institutions culturelles est pensé, et la manière dont on stratifie l'écosystème des musées, c'est quand même de dire que toute la partie artiste contemporain, de off-space, de création, de petites expositions, de Kunsthalle, de toutes ces choses-là appartiennent au domaine du soutien à la création, Et en fait, on est dans une approche où les pouvoirs publics vont soutenir des carrières à travers différentes choses, la production, etc. Et puis à partir du moment où en fait, le travail entre au musée, donc il fait, pour rejoindre l'épisode précédent, à partir du moment où en fait, le travail des artistes est plus juste amené dans le musée, mais en fait commence de constituer la collection du musée, là, on bascule dans une dimension patrimoniale. Et je crois aussi que là, il y a un truc assez intéressant, mais peut-être aussi pour aller dans ce que tu disais au début par rapport à cette dynamique de protection, à partir du moment, de quel moment entrer au musée, ça veut dire comme une sorte d'endroit safe où on pourrait où tout à coup on pourrait se réfugier. Je crois que je suis assez d'accord avec toi sur ce fonctionnement, mais j'aurais tendance à dire que c'est un fonctionnement par palier comme ça, et que je crois qu'il faut pas non plus sous-estimer le rôle de ces différents paliers qui fonctionnent aussi un peu comme des filtres, et qui fait que à la fin dans le musée les pratiques qui demeurent sont des pratiques qui ont été validés, qui ont été normés et qui sont entre guillemets acceptables. Et je crois aussi, pour revenir avec le fait que donc tu parlais des personnes LGBTQIA+, ou je pense que c'est la même chose en fait avec les problématiques décoloniales ou racistes, etc. C'est intéressant de voir que les artistes, que les off-space en fait sont proactifs par rapport à ces questions. Ils vont défendre des programmations qui sont du coup engagées sur ces questions, mais entre le moment où les off-space défendent des pratiques, je pense aussi par exemple aux droits des personnes en situation de handicap ou comme ça, à partir du moment où les off-space défendent ces personnes, défendent ces pratiques, ben ça met quand même du temps jusqu'au moment où il y a une sorte de validation par l'institution muséale. Donc il y a toute une série de strates qui sont passées. D'ailleurs, ça se voit aussi dans les profils des personnes qui dirigent ces lieux. Il y a beaucoup moins de diversité dans les conseils d'administration des grands musées que dans les curateurs des institutions plus expérimentales.
Et on veut justement se demander, tu rentres un peu sur la question de qui dirige les musées et quel type de structure ça comporte. Toujours pour rester dans le milieu de l'art artistique, et d'un point de vue muséologique, selon toi, ça pourrait être quoi le meilleur profil de quelqu'un qui est à la tête d'un musée d'art contemporain? Est-ce qu'il y a aussi une forme d'épistémologie ou des gens, des game changers, comme on dit, qui ont fait école par rapport à, justement, on pourrait s'imaginer que c'est que des historiens de l'art, mais c'est pas toujours le cas. Donc, c'est curieux de savoir s'il y a aussi presque on pourrait imaginer une histoire parallèle de directeur, directrice de musée d'art contemporain.
Bon, ça, c'est une super question, mais moi, je crois que, bah, déjà, je crois que j'ai pas la légitimité de dire ce serait quoi le meilleur ou la meilleure personne, c'est quoi le profil idéal. Déjà, je pense qu'il y a une vraie question. Avant de se poser la question de qui doit diriger les centres d'art et qui est légitime ou qui devrait, alors je pense que la question peut se poser à plusieurs niveaux, mais déjà avant de se poser la question comme ça, c'est une des questions de base, ça serait de se demander si effectivement il faut que quelqu'un les dirige. Ça, c'est.
Si c'est une seule personne ou plusieurs personnes.
C'est ça. Est-ce que ça doit être est-ce que c'est des comités de gens? Est-ce que il y a des structures? Voilà, on peut citer le CAN à Neuchâtel où eux, ils ont vraiment une décision d'une gouvernance horizontale avec. Qui est, comme je le comprends, basé aussi beaucoup plus sur les compétences ou les intérêts de chacun chacune, et en fait les gens deviennent sont un peu des experts dans certains domaines, parce que de fait, on n'a pas tous les mêmes centres d'intérêt. Et puis, ils vont devenir de fait des références pour les autres dans certains domaines parce qu'ils amènent une plus-value. Mais ce n'est pas ça qui définit leur niveau hiérarchique, puisqu'on part de l'idée que les décisions doivent se faire de manière collégiale. Donc ça c'est, je trouve quand même des choses intéressantes. Après, il y a toujours encore la question des biais que ces situations peuvent créer. Est-ce que ça doit être des artistes? Est-ce que ça doit être des historiens, historiennes de l'art? Est-ce que, au contraire, en fait, il y a la nécessité d'avoir des gens qui sont extérieurs à ces milieux? Ça, c'est vraiment aussi des vraies questions de comment on constitue. Parce que, de fait, pour pouvoir accéder à ces positions, il y a tout un parcours personnel qui fait que souvent on se retrouve dans les directions, même si elles ont des bonnes intentions, on se retrouve quand même avec des personnes privilégiées qui ont eu la chance de faire des études qui leur permettent d'être à ce niveau-là, que ce soit des artistes ou des historiens, historiennes de l'art. Donc je crois que c'est aussi des vraies questions. Je pense que il y a la question de la direction du centre d'art, mais je pense que une des manières de mettre ça en question, de résoudre ça, et moi je suis assez convaincu par rapport à cette situation-là, mais c'est quelque chose qui peut être discuté et que je suis prêt à entrer en débat avec quelqu'un si j'en suis pas d'accord, mais je pense que le salut vient de l'extérieur, si on peut dire ça, mais je pense que il y a une vraie nécessité d'inviter ou de réfléchir l'institution comme un lieu ouvert, et pas uniquement ouvert pour les publics, mais ouvert pour la possibilité d'avoir des gens qui viennent amener un regard ou un discours sur l'institution. Je crois que quand Paul Bernard, au centre d'art à Bienne, invite Lumpenstation, ça participe en fait de cette volonté d'autocritique. En fait, c'est aussi créer des espaces au sein de l'institution pour pouvoir permettre permettre un espace réflexif. Et je crois que ce qui m'intéresse moi aussi en tant que muséologue, historien des musées, c'est vraiment aussi ça, c'est de voir comment ces espaces peuvent être... quelle forme peut prendre ces espaces. Et ce que j'observe aussi actuellement, on va dire dans ces 10-15 dernières années, ce qui est vraiment intéressant aussi dans le musée, que ce soit musée d'art, mais aussi toutes les autres formes de musées, c'est qu'en fait, cette remise en question, elle se fait aussi beaucoup depuis l'exposition. Et que le savoir, il est plus uniquement produit dans une analyse des collections, mais il est aussi produit à travers des stratégies d'exposition. Et en fait, de manière très empirique, on essaye de trouver des solutions pour réinventer. Peut-être le mot, il est un peu galvaudé, mais on va dire que c'est peut-être le moins mauvais. Quelles sont les stratégies qui peuvent être mises en œuvre depuis l'exposition pour réinventer l'institution? Et ça, c'est, je crois, aussi une des choses qui, moi, m'intéresse particulièrement.
Oui, ça, c'est un point assez passionnant qui... D'un côté, j'ai envie de saluer cette nouvelle dynamique parce que je m'y reconnais. Et d'un autre côté... je trouve qu'elle était déjà là chez des gens qui s'occupaient d'off-space. Et c'est un peu le sentiment que c'est salaud, parce que quelque part, il y a des gens qui font ça depuis 20 ans, souvent dans le précariat, ou quelque part en... J'aime pas l'idée de sacrifice, mais dans le sens, je préfère dire dans une forme de sobriété salariale. Et donc, ils construisent en know-how, comme on dit. Et donc, il y a un côté fresh. Et puis, du coup, il y a des institutions qui disent « Ah, mais en fait, j'ai commencé à travailler comme ça, mais il n'y a pas forcément un transfuge de, de compétences, voire de questions salariales, et que quelque part, il y a un opportunisme dans ça, et il n'y a pas vraiment de circulation de gens. Mais avant peut-être ouvrir aussi sur les questions critiques, et puis nous c'est bien parce qu'on a une carte blanche, donc c'est pas forcément on se construit pas forcément dans la critique, en tout cas ce que moi j'essaie d'emmener à Lumpenstation, c'est différent de ce qu'on va voir tout bientôt avec peut-être des artistes qui sont, on les appelle des critiques constitutionnelles, donc quelque part vont toujours chercher le poil dans l'œuf. Mon côté est plutôt, pour rebondir sur ce que je disais avec les off-space, côté recherche fondamentale. Et le même débat se pose en science, où il y a des laborantins ou des chercheurs qui acceptent d'avoir des modes de vie et des salaires plus sobres, pour faire un peu avancer le schmilblick, pour dire. Et puis il y a une autre partie du même milieu qui s'est capitaliser sur des méthodes ou des analyses. Je voulais juste rester encore un moment sur la figure du curateur de faire exposition. Je profite justement qu'on est à Bienne, donc on n'est pas loin de Berne, mais pour peut-être évoquer avec toi un moment Harald Zeman, qui est une figure et qui peut-être a updaté la figure du curateur, et qui justement ouvre aussi la question de savoir, le directeur de musée, est-ce qu'il utilise des pratiques artistiques pour oui, faire vivre le musée, mais aussi pour quelque part montrer sa propre sensibilité. Donc quelque part il est le collectionneur, tu vois, et si, en tout cas c'est les critiques qu'on a fait à Harald Zeman, c'était à un moment donné que c'était lui l'artiste qui l'engageait, plusieurs artistes qui prouvaient sa méthodologie. Du coup j'étais curieux de savoir si aussi dans le milieu auquel tu appartiens c'est cité comme exemple, ou si c'est une question aussi qui se pose lorsqu'on est emmené à diriger un musée ou une Kunsthalle, whatever.
Je pense que effectivement la figure d'Harald Zeman, elle est intéressante, parce que il y a quand même, en fait, comme tu l'as relevé, il y a une ambiguïté par rapport à cette position de curateur. Je pense que ça interroge aussi cette question d'autorité, hein, de manière assez forte, parce qu'effectivement, si ce qui fait œuvre, c'est l'exposition et plus les positions des artistes, tout à coup, il y a quand même une sorte de petite tension qui s'installe sur qui a la légitimité de quoi, et comment on fait pour démêler l'autorité sur les expositions. Je pense que dans le cas de Harald Zeman, c'est surtout il y a un truc très fort qui s'est construit, mais aussi a posteriori, en fait, hein, je crois que c'est aussi ça, c'est que je pense pas que il faut lui faire trop un procès d'intention. Je pense vraiment que il a une manière de penser l'exposition qui est aussi directement influencée par des pratiques artistiques qui sont contemporaines à sa manière de faire une exposition, et puis de réfléchir, disons, en l'occurrence par exemple, si on parle de son exposition mythique When Attitudes Become Form,
on peut dire un documentaire.
Pardon ?
On peut dire que c'était pendant la... Non, c'était à la Kunsthalle, celle-là.
C'est ça, c'est à la Kunsthalle de Berne.
Et la documenta, c'était... je confonds toujours les méthodes similaires.
Celui de la documenta, c'est les dates, hein, c'était Berne 69 et je peux te le retrouver, je crois que je l'ai là.
Cassel, ça doit être 72 par là. Mais il avait aussi.
Ah, tu veux dire oui, tu veux dire ce, quand il a fait le quand il a été responsable de la documenta.
Ouais, ouais, ouais. Okay. Il y avait aussi un titre. Ah oui.
Comment ça
toujours.
S'appelle cette écoute, je sais pas, peut-être que tu le recites après, mais je parce que je l'ai plus en tête maintenant. Non, mais ce que quand je parle de When Attitudes Become Formed, ce qui m'intéresse aussi un peu, c'est par rapport à ça, c'est que il y a la volonté de pour lui, il fait cette exposition et voilà, il y a pas d'autre chose à en dire que il fait cette exposition à un moment. Et en fait, ce que je trouve intéressant, c'est le discours et la mythologie qui est construite par après autour de cette exposition. Et je crois que ça, c'est assez important aussi de revenir sur ça. C'est que la figure d'Harald Zeman, on peut la critiquer, mais je crois qu'elle est aussi hyper liée à une génération de curateurs et de curatrices qui ont émergé par après et qui ont vu en fait dans l'exposition une manière de produire une œuvre au sens général du terme, c'est vraiment et je crois que ça c'est quelque chose qu'on peut citer, et je pense que ça a aussi une influence un peu directe sur les expositions qui se sont développées par après, qui sont encore quelque chose qui existe. Mais je crois que peut-être qu'on peut faire aussi cette analyse avec une question de une sorte d'effet de rareté. Je crois que ça, c'est aussi un truc un peu intéressant, c'est que si des œuvres d'artistes, on peut toujours les voir parce qu'elles sont régulièrement montrées dans un espace, dans une espèce d'exposition où elles sont arrivées dans des collections, etc. Il y a quand même un mythe d'exposition. Ça pourrait être la le sujet d'une émission entière, mais on pourrait parler de toutes ces expositions mythiques qui ont créé à un moment une situation qui fait rupture. Et je crois que c'est ça aussi qui est important, c'est que dans le cas de Harald Zeman, il a fait une série d'expositions qui ont fait rupture et qui ont directement influencé la manière contemporaine de faire de la curation. Et je crois que c'est ça. Après, on a érigé cette figure comme une sorte de personne absolue, de curateur absolu et tout. Et je pense qu'effectivement, il y a sans doute une composante, disons son ego joue un rôle probablement et tout. Je connaissais pas Harald Zeman personnellement, mais je peux m'imaginer qu'il y a un jeu là-dessus. Je crois que sa participation à Documenta de Cassel, Documenta sous sa direction, a encore renforcé davantage cette figure. Et puis effectivement, je crois que c'est quelqu'un qui a véritablement inventé des choses en matière de curation. Après, effectivement, on peut avoir une approche. Je pense qu'il faut avoir une approche critique sur ces figures. Mais ce que je pourrais aussi dire, et puisqu'on parle de Zeman, ce que je trouve assez intéressant, c'est que ça repousse aussi quelque part le périmètre de qu'est-ce qui constitue à la fois une exposition, de qu'est-ce qui constitue une œuvre. Et puis, un des exemples les plus flagrants, c'est que en 2012, à la Biennale de Venise, à la Fondazione Prada, ils ont fait un reenactment de cette exposition de Harald Zeman. Donc, il y a vraiment comme si c'était une performance qu'on pouvait rejouer. Et ça, c'est quand même un truc que je trouve aussi assez intéressant, qui raconte, à mon avis, plus sur le processus de mythification d'Harald Zeman, et qui, je trouve, explique aussi peut-être l'aura qu'il a acquise à travers le temps.
Alors moi, je trouve super Harald Zeman pour différentes questions, mais une de celles-ci, c'est quelque part, il me semble qu'il a emmené aussi un côté directeur de recherche, plus que quelqu'un qui va... Non, j'ai envie de dire, c'est un peu toujours la question avec les pionniers, non ? Ils font... il ou elle emmène un truc qui n'est pas encore une norme, dans le sens qui n'est pas encore une méthodologie, donc c'est un mélange d'intuition, de vision, et de se donner les moyens de le faire, et que quelque part, certains dans la même période ou juste avant, par exemple aussi en ethnographie, on commence à aller vers des sortes de transdisciplinarité où il y a un directeur de recherche, mais en fait il va emmener des experts de plusieurs disciplines pour plus que prouver ou montrer quelque chose, déployer un maximum de savoir autour d'une notion ou d'un territoire. Et je crois qu'Harald Zeman, quelque part, il a emmené ça, c'est de identifier un territoire plus ou moins pertinent avec un questionnement du contemporain, et de s'associer ou de coordonner, faire vraiment de la coordination entre plusieurs personnes qui peuvent donner un morceau du puzzle de ce contemporain, mais qui quand même ont une approche similaire, comme cette fameuse mythique exposition « When attitude becomes form ». Donc quelque part, oui, c'est lui qui trouve un titre, mais aussi c'est pour réunir plusieurs personnes. Et ma critique rentrerait plutôt sur les imitateurs, où à un moment donné, ça c'est aussi devenu un modèle pour directeurs de musées, curatrices, etc., de le faire rapidement. Non, je vais trouver un bon titre pour pouvoir rassembler un maximum d'artistes que je peux mettre sur cette bannière. Et en fait, le modèle, c'est un peu perdu, quoi. Je me demande des fois maintenant si, voilà, c'est pas pour rester encore en Suisse, mais Hans Ulbricht.
Ulbricht,
ouais, j'arrive jamais à le. On s'est compris qui il est tellement connu qu'on peut ne pas citer son nom correctement. A aussi créé une sorte de modèle qui est celui-là du studio visite, d'une construction de proximité avec l'artiste, presque intimiste. Et je me demande, voilà, aussi ce modèle, jusqu'à quand il peut continuer, parce que je le vois aussi appliqué par d'autres. Et qui, deux fois, emmène une mauvaise atmosphère, parce qu'il y a un peu ce côté « Ah, je viens de voir en studio, on est copains, etc. » Et en fait, j'ai l'impression que Hans l'a fait vraiment quand il avait 16 ans, donc c'est sa vision et son truc, et puis il arrive, entre guillemets, à le capitaliser. Et il y en a quand même pas mal d'autres qui le suivent à modèle, mais qui on voit bien que c'est pas forcément leur état naturel. Et pour revenir au musée, je pense que c'est bien, justement, là, on est un peu ouvert pour des questions critiques, et quand on a préparé cette émission, tu as évoqué justement des artistes appelés critiques constitutionnelles. Tout à l'heure, t'as parlé de Alan Kaprow, donc c'est un phénomène quelque part assez qui va de pair presque avec la standardisation du White Cube. Et du coup, je te laisse la parole justement pour que tu puisses nous partager comment certains artistes vont aller chercher à l'intérieur du fonctionnement même du musée la possibilité de faire une pratique artistique.
Ouais, non, mais je pense que effectivement aussi par rapport à cette question de critique institutionnelle, elle est intéressante parce que déjà ça vaut la peine de se poser la question qu'est-ce qu'on entend par là, mais parce que il existe des artistes qui sont historiquement rattachés à la critique institutionnelle, qu'on définit comme des artistes qui ont pratiqué la critique institutionnelle. Ces artistes ont, pour la plupart d'entre eux, rejeté toujours cette question cette appellation. Je pense notamment à Andrea Fraser, une performeuse qui est assez connue pour ses justement conférences-performances au sein du musée, où elle rejoue des codes du musée, que ce soit le discours d'inauguration d'exposition ou d'autres événements, en fait. Je pense que de manière plus générale, si on fait un pas en arrière, qu'on ne parle pas uniquement des artistes qui font de la critique institutionnelle ou qui sont rattachés à ce mouvement, je pense qu'il y a quand même un mouvement de fond de la part des institutions culturelles d'inviter, ou des musées, d'inviter des artistes qui leur tendent un miroir. Je pense que toute proportion gardée, c'est déjà ce que fait Alan Capron. C'est déjà ce que fait Alan Capron, mais c'est déjà ce que fait Harald Zeman dans ses expositions. Et puis, disons, moi, je trouve intéressant de réfléchir à la question de la critique institutionnelle maintenant, en 2024, parce que il y a eu une sorte d'explosion comme ça des pratiques de critique institutionnelle à la fin du XXe siècle, dans les années 90. Et puis, pas mal de choses qui ont été soulevées à cette occasion font encore du sens actuellement. Et en fait, pour rejoindre ou pour relier les choses avec ce que je disais tout à l'heure dans le fait de l'importance d'inviter des externes pour parler du musée, j'ai parlé justement de Clémentine Delis, qui était donc directrice du Weltkulturenmuseum à Francfort, qui a fait en fait qui a vraiment décidé dans la période de sa direction de recourir vraiment régulièrement dans toutes ces expositions à des externes. Alors, ça peut être des juristes qui portent un regard très analytique et qui posent des questions éthiques au musée, par exemple. Donc, pour préciser juste, le Weltkulturenmuseum, c'est un musée d'ethnographie qui a des collections coloniales, de fait, comme on l'évoquait dans le premier épisode. Mais notamment, par exemple, un élément que moi je trouve intéressant dans ce qu'elle a fait, c'est le fait que le musée possède des collections de photographies. Et puis, quand on parle de biens coloniaux, actuellement, il y a beaucoup d'articles, c'est quelque chose qui est très thématisé. Ah, qu'est-ce qu'on fait avec les biens coloniaux? Est-ce qu'on va disons, à qui dans un contexte colonial? Est-ce qu'on doit les restituer? Est-ce qu'on doit faire un transfert de propriété, etc., etc.? Mais quand on parle de biens coloniaux, on imagine souvent des statues, des masques, je ne sais pas, des pirogues ou des choses comme ça. Des biens coloniaux, c'est aussi, tu as parlé des musées de sciences naturelles, donc c'est aussi des spécimens de sciences naturelles, des animaux qui ont été chassés et qui sont maintenant dans les collections. Et c'est aussi, par exemple, des photographies. Donc toutes les photographies qui ont été faites par des prêtres, des missionnaires, et qui ont en fait... qui constituent des collections très importantes de beaucoup de musées d'ethnographie et pour qui la restitution entre assez peu en compte, parce que qu'est-ce qu'on va faire avec des centaines de milliers de photographies? Est-ce qu'on va renvoyer ça en Afrique? Ou est-ce que personne n'est là personne ne veut récupérer ces photographies? Et en même temps, c'est des documents coloniaux. Et dans le cas de Clémentine Delis, ce que je trouve intéressant, mais peut-être ce qui est aussi important de dire pour préciser, et je crois que ça fait le lien en fait avec ce dont on parlait tout à l'heure, c'est que c'est une curatrice qui vient de l'art contemporain, qui est donc à l'habitude de fonctionner à travers des invitations faites à des artistes ou à des designers ou comme ça pour faire des propositions esthétiques dans une institution. Et en fait, elle a fait une exposition en 2012 qui s'appelle Trading Style, où cette exposition, en fait, le principe même de l'exposition, c'était d'inviter des designers de mode qui venaient du Nigeria, d'Angleterre, de Hollande, je ne sais plus, il y a différentes personnes qui venaient de différentes régions. Et en fait, l'idée de base, c'était de faire venir ces gens et les faire travailler sur les collections de photographies. Et en fait, qu'est-ce que la mode et qu'est-ce que le design textile a raconté de ces photographies? Et en fait, du coup, ça crée des sortes de workshops où le musée en fait se transforme, l'espace d'exposition se transforme aussi dans un lieu un peu autre qu'elle appelle l'observatoire. Donc en fait, elle décide que une partie du musée n'est plus un lieu de collection et pas non plus un lieu d'exposition, qui est un lieu d'observation. Et qu'est-ce qu'on fait dans cet observatoire qui fonctionne une sorte, on peut aussi utiliser le terme de laboratoire, qui est intéressant, mais je crois que observatoire, c'est assez bien, c'est le terme qu'elle utilise. Et en fait, il sert à mettre en dialogue les collections avec ses invités externes pour réagir. Donc ça, c'est une première initiative que moi, je trouve assez intéressante et qui pose en fait aussi les mêmes questions que ce qu'on a déjà pu aborder, qui est aussi d'une certaine manière une critique institutionnelle. Et puis je crois que, peut-être je peux encore mentionner, après je te dis, mais je pense que c'est aussi important de parler de cette autre initiative qui n'est pas liée à ça, mais c'est le travail ou l'exposition de Fred Wilson qui s'appelle « Mining the Museum », an installation by Fred Wilson. Fred Wilson, c'est un artiste états-unien afro-descendant qui a du coup inscrit sa pratique artistique dans des formes plutôt performatives ou installatives qui sont liées d'une certaine manière à la critique institutionnelle et surtout qui sont liées à une critique des dynamiques racistes qui sont à l'œuvre dans les institutions. Et Fred Wilson en fait a été invité à la Historical Society sur la côte ouest, je ne retrouve plus la date, je n'ai plus le lieu, je l'avais avant.
San Francisco, San Diego.
Sur la côte est.
Ah, est, j'ai compris, ouest. Boston, New York. J'essaie de revisiter ma géographie pendant que tu demandes à Google, comme ça on reste sur le sujet.
Oui, non, mais disons ce que je trouvais intéressant, c'est que c'est un musée historique. La Historical Society, c'est donc une société qui possède une collection dans le Maryland, mais j'essaye de retrouver la ville.
Géographie du Maryland, quand même. Ça...
Non, mais c'est une ville connue. On n'est pas.
Oui, non, mais c'est pas facile. C'est comme si on demande à quelqu'un de notre continent la capitale du canton.
Baltimore.
Baltimore.
C'était ouais. Baltimore que je cherchais.
Je savais pas que Baltimore était dans le Maryland.
Voilà. Ok. Donc, si tu veux, à Baltimore, il y a cette institution qui s'appelle la Historical Society, qui présente plutôt des objets historiques de la région. Et notamment évidemment, la région est marquée par un passé esclavagiste assez fort. Et puis, il y a en fait cet artiste, Fred Wilson, qui est invité à retravailler avec les collections. Il fait ça en 1992. Et puis... Il va créer en fait toute une série de d'installations. Finalement, lui-même produit assez peu de choses. Il va uniquement travailler en fait sur la dialectique entre les objets et sur la manière dont il va notamment utiliser des enseignes en bois sculpté pour des magasins de tabac qui représentent en fait des personnes natives américaines. Qui sont donc pleins de clichés du de l'Indien comme comme c'est considéré là à l'époque. C'est donc ce cliché du natif américain qui est avec les plumes donc et les choses comme ça qui servent de qui sont donc dans les collections qui sont donc plein de préjugés racistes qui sont mis en regard avec des collections de photographies contemporaines qui sont prises par des personnes de la communauté native américaine et qui mettent en fait qui sont simplement des scènes de vie normale de la vie quotidienne. Donc il y a des choses comme ça ou alors des une des propositions qui est assez emblématique dont on se souvient beaucoup dans cette exposition, c'est de mettre dans une vitrine classique qui présente de l'argenterie qui appartenait à une des familles nobles de la région, donc un service à café en argent ou en étain, hein, tout ça, avec au milieu comme au milieu de ces de cette présentation de service des anciennes chaînes, des menottes qui étaient utilisées pour contraindre des esclaves. Et du coup, et le cartel de la vitrine, de, ça devient Metal Works, donc travail du métal. Et donc de mettre en fait sur la même perspective en dialectique des objets du passé colonial avec des objets de la vie courante, etc. Et donc de créer des tensions à travers ça. Et je crois que ce qui est assez intéressant, c'est que cette exposition, bon bref, elle, en soi, il peut y avoir des critiques qui sont qui peuvent être faites, notamment sur la dimension très didactique de l'exposition. Je trouve que c'est, des fois c'est peut-être des effets qui sont qu'on pourrait considérer comme peut-être un peu trop simples ou qui vont pas assez dans la qui sont un petit peu moralistes. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que cette proposition arrive en 1992 et que les questions qui sont soulevées à travers ce travail purement de critique institutionnelle, elles ont une vraie actualité encore en 2024, d'autres 32 ans plus tard. Je crois que ça, c'est aussi intéressant de voir comment en fait, ces différentes initiatives elles peuvent, de critique institutionnelle, elles peuvent quand même amener une manière, peut-être une réflexion critique, peut-être moins sur la société, parce que je pense que dans la critique institutionnelle, malgré tout, il y a une volonté de réformer la société. Et c'est, je crois, aussi ça qui fait ce côté un peu moraliste, moralisateur. Mais en fait, fondamentalement, de repenser la stratégie du musée, la manière, les conditions d'existence des institutions muséales.
Justement, j'ai joué un peu le rôle du procureur, mais c'est juste pour élargir un peu la discussion et peut-être aussi faire une observation de quelqu'un qui nous écoute et qui aimerait poser cette question sur la table. C'est justement, par rapport au musée, c'est bien d'avoir un artiste de critique constitutionnelle ou qui a fait une critique constitutionnelle parce que quelque part on pourrait dire ben voilà c'est, on a fait ça et puis il y a un côté opportuniste ou je sais pas comment on dit institutional washing tu vois ce que je veux dire. Donc et je comprends bien sûr que c'est un peu salaud de dire ça au musée, parce que quelque part, s'ils ne font pas la critique, ça ne va pas. Et s'ils font une critique, ça ne va pas non plus. Mais je pense quand même que ça ouvre une dimension du musée qui fait que la manière dont il fonctionne a permis d'ouvrir une pratique en elle-même de sa propre référence, quoi. Et je voulais te demander s'il y a, ou si dans tes recherches aussi, il y a cette critique qui peut-être a été aussi affrontée par les artistes eux-mêmes ou les musées pour justement peaufiner le. D'ailleurs, parce qu'on pourrait voir ça aussi comme juste une manière de. Une remise à jour, quelque part. Tu vois, on vit ton artiste. En tout cas, moi, de ce comment je me souviens des artistes institutionnels, de critiques institutionnelles, des débuts d'année 2000, quand je commençais à étudier, tu avais un peu l'impression, certains travaux, je ne me souviens plus les noms parce que je suis mauvais avec les noms, mais qu'il y avait un peu un côté consulting. On va inviter un artiste qui fait une critique pour nous trouver à nous aussi un truc à critiquer. Tu vois, et c'était presque en trend. Et puis esthétiquement aussi, des fois, c'était. T'as un peu l'impression qu'ils auraient pu inviter l'artiste, en parler à l'équipe, sans forcément que ça concerne le public, quoi.
Non, mais je pense. Oui, je pense que c'est vrai, c'est intéressant ce que tu dis. C'est que je crois que. Je pense que ces questions, elles ne peuvent pas être complètement dissociées du contexte social et politique dans lequel elles s'insèrent. Par exemple. Les premières initiatives de critique institutionnelle, ils ont les premiers, justement, ces mouvements, que ce soit Fred Wilson ou Andrea Fraser, ces gens, quand ils entrent dans le musée avec un discours critique, ça s'inscrit assez concrètement dans des institutions qui ont de la peine à bouger, qui sont vraiment sclérosées par toute une série de principes et en fait on a qui sont un peu qui se font justement qui sont des institutions de fait assez conservatrices. Et je pense que ça a bousculé certaines choses et ce qui a fait que peut-être à la fin des années 90, au début des années 2000, il y a un vrai disons, le musée est moins, ou les institutions muséales deviennent moins considérées et en fait, on y voit un peu des espaces poussiéreux qui sont pas très intéressants, en fait, qui sont de fait pas très intéressants. Et effectivement, il y a une crise des musées à ce moment-là. Et inviter des artistes qui font de la critique institutionnelle, je pense que c'est dans ce que comme tu le dis, je pense qu'il y a une vraie volonté de se rendre à nouveau subversif, de prétendre être subversif. Je crois que ce qui est intéressant, c'est que ça a pu fonctionner comme ça. Et je pense que maintenant, la dynamique dans les années 2020, elle est différente de nouveau parce que le musée fait face à des choses comme MeToo, comme Black Lives Matter, comme des mouvements sociaux qui sont fondamentaux et qui remettent vraiment en question à la fois les conditions d'acquisition des collections, mais leur fonctionnement intrinsèque. Il y a la question de la durabilité des musées. Vraiment, il y a cette volonté, effectivement, donc de faire du greenwashing ou de prétendre être antiraciste, être ouvert aux questions féministes, etc. Je pense que maintenant, on est de nouveau dans une sorte
aussi,
de...
Les revenus aussi, dans le sens les artistes, combien ils sont payés...
C'est ça, voilà, il y a aussi la question du revenu des artistes. Et en fait, ça, c'est aussi quelque chose qui pendant longtemps, n'était pas thématisé. Et je crois que du coup, maintenant... Et je crois que c'est ça qui est aussi assez intéressant, et peut-être que ça va se... probablement à partir du moment où les musées auront quittancé dans leur fonctionnement et dans leur display ces questions-là, ça risque peut-être de nouveau s'éteindre et de ronronner, et peut-être que les musées vont vouloir trouver des nouvelles stratégies pour être de nouveau tendance. Mais en tout cas, maintenant, il y a un double phénomène qui est à la fois que les musées n'ont jamais été autant visités que maintenant. Il y a un véritable succès, il y a une vraie stratégie de visibilité. En fait, c'est plus une question d'être un musée peu visité. Alors effectivement, tous les jours, les musées luttent pour avoir le maximum de visiteuses, mais c'est quand même un truc qui est quand même, disons, c'est plus facile, je crois. Et en même temps, il y a des mouvements critiques qui sont importants. Donc en fait, je pense que toutes ces choses-là font que maintenant, et d'ailleurs, ce n'est pas pour rien qu'on en parle maintenant dans l'émission, c'est vraiment parce que je crois qu'il y a un moment, une sorte de petite heure de gloire de l'institution muséale actuellement. Peut-être et même probablement que ça va retomber.
On va regarder tout ça dans l'épisode numéro 3, parce que pour qui nous écoute, vous pouvez aussi avoir une idée de un peu ce qu'on va discuter dans le prochain épisode. C'est justement un peu de voir le hype du musée actuel, mais aussi un peu d'autres formes muséales, comment elles revisitent les collections, le fait d'être en musée et l'expérience des personnes qui les fréquentent. Merci Julien pour ce deuxième épisode. Je pense que voilà, on a un peu donné aussi qui nous écoute on a perçu de plusieurs phases le White Cube, Harald Zeman et la critique institutionnelle, justement comment la réalité de certains musées a dû quelque part être remise à jour, ou aussi comment on fait pour dealer avec des collections. Je ne sais pas si tu veux finir avec quelque chose pour conclure ce deuxième épisode. Peut-être on est passé à côté, ou alors on donne rendez-vous au troisième épisode direct.
Oui, pour moi, on peut donner rendez-vous au troisième épisode.
Merci pour votre écoute, Open Station. On enregistre au KBCB à Bienne, dans la salle Le Studio Lo.